affinités électives. Une émission proposée par Canal Academy.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Academy, merci de votre fidélité. Notre émission de ce jour sera consacrée à une histoire d'amour et de science, une histoire d'amour pour les sciences et une histoire d'amour entre deux scientifiques. Nous allons en effet, découvrir un couple de scientifiques du 19e siècle. Alors je pressens votre sentiment, vous allez vous dire, voilà, nous allons encore parler de Pierre et Marie Curie. Eh bien non, nous allons découvrir un autre couple de scientifiques spécialisé, lui, dans le domaine de la neurologie. Hélas, bien moins connu, mais cela va s'arranger grâce à notre émission et surtout grâce à l'ouvrage que vient de publier à leur propos Michel Fardeau. Le sujet de notre émission de ce jour, c'est le couple formé par Jules et Augusta de Gérine. L'ouvrage s'intitule « Passion neurologie », c'était bien la passion qui les animait. Et on est confondu après avoir lu ce livre, monsieur, merci d'être parmi nous tout d'abord, qu'il ne soit pas plus connu aujourd'hui. Avant de vous céder la parole, je vous présente, car c'est nécessaire aussi. Vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS, professeur honoraire au CNAM, vous nous en direz plus. Vous avez été le premier directeur médical et scientifique de l'Institut de myologie créé par l'Association française contre les myopathies à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, où notre couple de scientifiques a exercé, voici un petit peu plus d'un siècle. Et vous êtes donc l'auteur de ce livre qui vise non pas à réhabiliter, car ce n'est pas nécessaire, mais à mieux faire connaître Jules et Augusta de Gérine. Pouvez-vous, monsieur, tout d'abord nous expliquer la genèse de l'ouvrage, la raison pour laquelle vous avez souhaité l'écrire et présenter ce couple à nos auditeurs et vos lecteurs, bien sûr?
Alors c'est vrai que c'est une implication personnelle. Et il faut que vous m'imaginiez la fin des années 50, interne à la Salpêtrière, ayant décidé non seulement de faire de la recherche, mais de consacrer tout mon internat et toute mon activité à la neurologie. Et je suis dans un service où je vais très vite découvrir que j'appartiens à l'une des deux grandes écoles de la Salpêtrière. Il y a deux écoles rivales. Il y a l'école de Charcot, que tout le monde connaît par le nom de Jean-Martin Charcot, qui règne à l'époque sur la neurologie. Et en face de cette école Charcot, il y a une école qui a été construite par Vulpian. Vulpian a été l'ami de Charcot. Alors on est là dans les années 1860. Ces deux jeunes médecins des hôpitaux ont décidé pour la première fois, de choisir la Salpêtrière comme terrain de leur activité, ayant parcouru eux-mêmes les allées de la Salpêtrière et découvert qu'il y avait là un musée extraordinaire de pathologie humaine.
Oui, et éclairer nos auditeurs, dans ces années-là, qu'est-ce qu'était la Salpêtrière?
La Salpêtrière. La Salpêtrière, c'est l'hospice vieillesse-femme. Je suis assez vieux pour avoir connu les vieilles divisions qui aujourd'hui ont été détruites et remplacées pour l'essentiel par des bâtiments modernes. C'était vraiment l'héritage de Louis XIV. C'était vraiment des bâtiments incroyables à parcourir surtout la nuit pour le jeune médecin que j'étais. C'était l'enfer de Dante, des bâtiments avec une loupiote électrique pour 60 ou 70 lits, une odeur, donc j'ai pas besoin de préciser, des cris, et c'était ça, la division Parmentier, la division Parizet, et c'est ça qu'avait découvert Charcot et qu'avait découvert Vulpian. Mais les personnes, les reposantes, comme on les appelait à l'époque, ces pauvres femmes, puisque c'était essentiellement un hôpital de femmes, présentaient des histoires qui aujourd'hui, évidemment, ont reçu une ébauche de solutions, mais qui à l'époque étaient simplement, elles étaient là dans leur berceau et on les laissait survivre sur le temps que Dieu pas, que Dieu leur accorderait.
C'était pas un hôpital, c'était un hospice.
C'est un hospice, c'est l'hospice vieillesse femme. Donc, j'ai fait entrer dans cet hospice pour la première fois deux médecins qui ont une vision nouvelle sur les maladies, sur la médecine, et en particulier sur les maladies du système nerveux, et qui vont y consacrer leur vie, l'un et l'autre, avec des optiques un peu différentes. Charcot, c'est un observateur, c'est un dessinateur génial, c'est un médecin d'observation. Vulpian est lui aussi un très bon observateur, mais c'est un expérimentateur aussi. Il a été l'élève de Flourens au muséum, et donc il a une vision très physiologique des choses. Il essaye de comprendre le mécanisme de ce qu'il a devant lui. Ils sont très amis, mais vraiment très, très, très intimement liés. Ils vont unir leurs forces pour sortir l'hospice de la Salpêtrière de son Moyen-Âge. Et puis, ils vont se séparer, Vulpian devenant le doyen de la faculté, et Charcot restant, lui, toute sa vie dans la Salpêtrière. Comme toujours, les deux personnes initiales s'entendaient extrêmement bien, vraiment étaient très, très amies et vraiment très, avaient vraiment une finalité commune pour approfondir l'histoire des maladies qui deviendraient les maladies du système nerveux, la neurologie. Mais les élèves en ont décidé autrement. Les élèves, c'est toujours le problème.
Et les disciples sont parfois plus absolus que les maîtres.
Sans entrer, bien sûr, il faudrait rentrer bien. Le comportement de Vulpian et le comportement de Charcot étaient à cet égard extrêmement différents. Charcot a utilisé, le mot est peut-être un peu fort, mais son ascendant médical pour asseoir un véritable pouvoir politique. Et donc, il nommait ses élèves. Il y avait du côté de Charcot une école extrêmement hiérarchisée et très très puissante sur le plan de, disons, du pouvoir médical, si j'ose utiliser cette expression. Du côté de Vulpian, c'était très différent. Vulpian, c'est un groupe de chercheurs. Et très vite, ça va devenir une famille. Ce sont des gens qui sont unis par des liens d'amitié, des liens surtout de volonté d'approfondir la connaissance scientifique de ce qu'ils ont autour d'eux. C'est très moderne comme conception. On est d'un côté dans un système très régalien, de l'autre côté dans un système très 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 novateur. Et d'ailleurs, le décanat, si on peut dire, de Vulpian le montrera bien. C'était pendant le siège de Paris. C'est très intéressant. Et donc le jeune médecin en 1957 qui entre dans la Salpêtrière pour faire de la neurologie, je suis tombé du côté Vulpian. Je suis tombé avec Monsieur Garcin, pour donner son nom, qui était un remarquable neurologue, un remarquable pédagogue. M'a accueilli et très vite j'ai été bercé par l'idée que j'appartenais à la dynastie Vulpian et donc d'Egerine. D'Egerine a été l'élève chéri de Vulpian. D'Egerine est originaire de Savoie, c'est un modeste, c'est le fils
d'une... Oui, c'est un destin, nul autre pareil quand même. Hein.
Pardon ?
Oui, c'est un fameux destin, celui de D'Egerine.
Oui, ça, qui naît dans les vallées de l'Arve, en Savoie, dans une famille paysanne. Les parents qui ont gagné quelque argent ont déménagé à Genève pour que l'enfant qu'ils projettent d'avoir ait une bonne éducation. Il aura une bonne éducation au collège Calvin. Et Jules D'Egerine, qui n'a pas laissé des souvenirs extraordinaires d'assiduité quand il était au collège Calvin, était par contre un bosseur considérable quand il a décidé de faire sa médecine. Il a demandé à ses parents, qui n'étaient pas riches, l'autorisation de poursuivre ses études à Paris. Et il est monté, comme on dit, à Paris, juste après le siège de Paris, après le siège par les Prussiens de Paris, après la Commune. Il a attendu quelque temps à Genève, puis il est monté faire sa médecine.
Alors pourquoi Paris d'ailleurs ? À Genève, après tout, il aurait pu mener cette carrière dans la médecine, non ?
Paris, d'abord parce que Desgrin est français. Il est né à Genève, mais il est français par ses parents. Et parce que Paris a une réputation dans le domaine universitaire et dans le domaine médical en particulier, une très grande... On monte à Paris, d'ailleurs. Celui qui vous parle est aussi originaire d'une province française. Il est monté à Paris, comme on dit, pour faire ses études de médecine. Donc Desgrin était un jeune étudiant, très ambitieux, très piocheur, comme on disait. On disait pas bosseur, on disait piocheur, et qui très vite a impressionné Vulpian par ses capacités, justement, son acharnement à apprendre. Et Vulpian l'a pris sous son aile et lui a fait faire ses premiers travaux, si on peut dire, lui a appris l'histologie, c'est-à-dire lui a appris l'usage du microscope, lui a fait faire ses premières notes à la Société de Biologie, l'a introduit auprès du milieu neurologique, et Desgrin a fait le cursus que tout étudiant en médecine de cette époque faisait. Il a passé l'externat, puis il a passé l'internat, et puis il se destinait à avoir une carrière hospitalière dans le cadre des hôpitaux de Paris. C'était très bien.
Oui, mais je vous laisse poursuivre.
Non, c'était très bien. C'était sans compter ce que j'ai évoqué tout à fait au début, l'opposition qu'il y avait entre les deux écoles de la Salpêtrière, celle du devant de la division Mazarin, qui était celle de Vulpian, et celle du fond de l'infirmerie générale, qui était celle de Charcot. Car Charcot n'a pas toléré très longtemps le fait que quelqu'un d'aussi brillant, d'aussi travailleur, construise une neurologie en dehors de la maison de Charcot. Et donc quand Desgrin, après son clinica, en a été à préparer l'agrégation, il s'est trouvé face à un barrage. Un barrage qui avait nom Jean-Martin Charcot. Et il faut tout l'aplomb que pouvait avoir Desgrin pour, après deux échecs, demander audience à Charcot pour aller le voir et lui demander les raisons de cette opposition. Lui qui n'avait rien d'autre que son travail, qui n'avait aucun appui qui ne cherchait qu'à faire du bon travail en neurologie, pourquoi est-ce qu'on s'opposait à sa nomination ? Et Charcot l'a pris très mal.
Est-ce que vous me permettez de lire le compte-rendu que vous faites de cette entrevue ? Tant il est éclairant sur ce tir de barrage et le caractère de l'un des deux protagonistes. C'est assez extraordinaire. Donc, voici le compte-rendu de cette entrevue.
Ce sont probablement les mots mêmes de Desgrin qu'il répandait dans son laboratoire. C'est le compte-rendu, autrement dit, de cet entretien a été fait par Desgrin.
Mais il est toutefois truculent. Après avoir fait passer sa carte et attendu un bon moment, prévenu par Ferré que l'entrevue serait chaude, Desgrin est introduit. Il traverse l'enfilade des petites salles et se retrouve dans la grande pièce, au fond de laquelle, dans un effet de lumière analogue à celui des petits maîtres hollandais, Charcot écrit. Desgrin s'approche petit à petit. Charcot, sans se lever, tourne légèrement la tête. « Ah, c'est vous, monsieur Desgrin ?» Desgrin s'assoit, sans avoir été invité à le faire. « Oui, monsieur Charcot, c'est moi. Mon ami Ferré me dit que vous étiez très monté contre moi, que vous vous opposez à ma nomination à l'agrégation, et je viens vous demander ce que vous avez à me reprocher. » Et Charcot de dire.
Ce que j'ai à vous reprocher, mais parce que vous débinez en permanence mon école, Et les mots étaient probablement beaucoup plus crus que ceux qu'on lit dans le livre.
Et Déjerine d'enchaîner. C'est tout, monsieur Charcot ? Vous trouvez que ce n'est pas assez ? Répond-il. Suite une évocation par Déjerine de deux articles contre Charcot publiés dans L'Art médical et dans Le Figaro. Déjerine va jusqu'à demander une confrontation avec ceux qui lui ont prêté ce discours.
Non, ce serait trop grave.
Réponse de Charcot, non, ce serait trop grave.
Il évacue parce que ça aurait débouché sur un duel. Et comme on le sait, le duel n'est pas loin ensuite. Il existera, le duel. Mais entre l'élève de Charcot et Déjerine. Donc on est dans une période quand même assez forte, hein, au point de vue de...
Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que Charcot ne lui pardonne pas de sortir du non-dit.
Oui.
Parce qu'il lui demande d'exprimer pour les raisons pour lesquelles il est barré. Mais c'est cela qui rend fou, Charcot. Vous me provoquez, c'est donc cela. C'est bien la preuve, puisque vous demandez de m'expliquer. Petit impudent, il n'y a pas d'autre mot. Ouais. Mais finalement, ça se conclut quand même par une sorte d'arrangement, si je ne me trompe.
C'est-à-dire qu'on retombe sur ce que j'ai évoqué au départ, l'amitié très très grande qu'il y a entre Vulpian et Charcot. Et donc Charcot considère tout de même Déjerine. D'abord, il a sans doute une estime assez grande pour le travail de Déjerine, comme Déjerine avait une estime très grande pour le travail de Charcot. Et il n'était pas question d'en rester là et de se fâcher avec Vulpian. Et donc, c'est un arrangement, si on peut dire. Mais l'arrangement ne sera que progressif. Parce que si Charcot promet de voter au prochain jury d'agrégation pour Déjerine, Déjerine n'aura qu'une voix, celle de Charcot, mais il n'aura pas la voix des quatre autres, qui sont évidemment les élèves de Charcot.
Et que Charcot a laissé libre de voter contre.
Bien sûr, c'est la grande liberté. Mais ensuite, l'influence de Vulpian, et puis l'influence de Hardy, qui est à ce moment-là le patron de Déjerine, feront que Déjerine sera nommé à l'agrégation.
Oui, puis probablement son travail aussi, car il est déjà reconnu comme...
Oui, bien sûr.
Non pas comme une sommité, car ça viendra ensuite, mais comme quelqu'un qui mérite absolument ce poste.
Voilà.
On a l'impression d'être dans une description, la Léon Daudet, quand même, du milieu médical, parfois. Hein.
Oui.
C'est assez
donc sidérant. Déjerine est nommé, et il sera nommé donc agrégé, professeur, et il sera nommé à l'hospice de Bicêtre, l'hospice de vieillesse homme, comme ça, où il va faire. Mais Déjerine n'est plus seul à ce moment.
Oui, mais alors, nous avions annoncé l'histoire d'un couple.
Il faut vraiment
évoquer la figure d'Augusta.
D'Augusta Klumke. Ouais. Alors ça, c'est une histoire, là aussi, ça a des aspects de conte de fées. Augusta Klumke est une Américaine. Elle est née à San Francisco, d'une famille de lointaine origine allemande, et puis dont le papa a fait fortune comme l'un des pionniers de la construction de la ville de San Francisco. C'est-à-dire qu'il a participé le père a participé à la ruée vers l'ouest, mais il n'a pas cherché de l'or en creusant, il a cherché surtout à vendre des terrains, il y a fait fortune, et il est très respecté pour son honnêteté et ses capacités d'organisation. Ça, c'est le papa. Et la maman est née à New York, la maman d'Augusta est née à New York, et elle s'est mariée à San Francisco, et ils ont tout de suite des enfants, et un drame intervient assez vite chez la sœur aînée d'Augusta, la première enfant, qui fait une ostéomyélite quand elle a 3 ans et demi. Et il n'y a personne aux États-Unis à l'époque pour soigner un enfant atteint d'ostéomyélite. Et la maman prendra la décision de venir en Europe, consulter les deux grands médecins à Berlin et à Paris qui ont une certaine connaissance de ces choses. Cela prendra quand même quelques années avant que le voyage en Europe s'organise. Mais finalement, toute la famille Klumke viendra s'installer en Allemagne, à Göttingen, où il y a encore une lointaine cousine. Et puis ensuite, on va passer sur les allers-retours de madame, de la maman, entre les États-Unis et l'Europe. Mais pour ce qui est d'Augusta, comme pour sa sœur aînée Anna, elles vont être en pension en Allemagne. Et donc ces enfants qui sont nés en langue anglaise vont apprendre l'allemand comme une seconde langue vraiment maternelle, et très vite apprendre le français, car à l'époque, toute culture passe par le français, et les enfants sont élevés de façon trilingue. Donc notre Augusta va être non seulement, elle est certainement extrêmement intelligente, tout ça, mais elle va être trilingue. Et la famille, je passe très rapidement, mais la famille va se déplacer d'Allemagne en Suisse, à Lausanne. À Lausanne, à nouveau, parce qu'il y a d'excellentes écoles secondaires pour les enfants. Et notre Augusta va y faire un cursus, là aussi, très très brillant. Très brillant sur le plan scolaire, si on peut dire, mais aussi très brillant sur le plan personnel. Elle va devenir très vite, ce qu'elle sera dans la vie, un leader de sa classe, et avec une passion qu'on peut dire féministe, de démontrer qu'elle peut faire aussi bien que tous les garçons réunis. Ça, c'est une chose qui va être une
elles font une même constante. Une sorte de petit club informel.
Voilà, la société Perseveranza, où on fume, où on danse. ça va marquer beaucoup toute la suite de la vie d'Augusta, qui est une personnalité très forte, mais très indépendante et très novatrice dans son comportement.
Elle vient du Nouveau Monde, et ça se sent.
Elle vient, exactement, elle vient du Nouveau Monde, elle est américaine, et donc, alors c'est une histoire aussi amusante, et je crois parfaitement authentique, de penser que si la maman a choisi Paris finalement pour y mettre tous ses enfants, c'est parce qu'à Paris il y avait une place pour tous, et parce qu'elle avait lu une revue de mode dans un square et discuté avec celle qui, tout ça, une revue, la mode illustrée, et où on annonçait qu'il y avait pour la première fois une femme qui venait d'obtenir un doctorat en médecine à Paris. Et comme Augusta, depuis sa petite enfance ou son enfance, souhaitait être médecin, eh bien tout le monde a débarqué rue Gay-Lussac. Voilà.
Et c'est donc dans ce milieu médical, si je ne me trompe pas, dans le service du professeur Hardy.
Alors voilà. Notre Augusta à Paris va être, va s'en donner à cœur joie, si on peut dire. Elle va suivre les cours de Charcot, elle va suivre les cours de Magnan à Sainte-Anne. Elle va prendre des cours privés d'anatomie où elle réussira extrêmement bien déjà. Et puis elle arrive comme stagiaire dans un service de l'hôpital de la Vieille Charité, rue Jacob, chez le professeur Hardy. Et là, elle tombe sur un chef de clinique qui s'appelle Dégerine, qui lui vient d'arriver comme chef de clinique. Et ces deux jeunes gens, dont la rencontre est donc liée simplement au hasard, manifestement vont se comprendre très vite, échanger sans doute plus que des regards. Jules sera invité chez les parents d'Augusta, enfin, tout ça c'est charmant, c'est vraiment une histoire d'amour.
Alors c'est un coup de foudre, mais alors si vous me permettez à nouveau de lire un extrait, alors là c'est un extrait des lettres nombreuses que Jules Dégerine adresse à sa maman restée à Genève.
Toujours, elle tient un courrier, et ce qui est extraordinaire, si vous me permettez, avant que vous ne lisiez ce commentaire, mais ce qui est fantastique dans cette famille, c'est qu'ils ont gardé toutes ces archives. Toutes ces archives, et nous verrons tout à l'heure, elles sont en grande partie chez moi. Mais tout a été vraiment gardé. Je pense que Augusta avait conscience, justement par ce début du féminisme dans les études, chez les étudiants, avait conscience de jouer un peu un rôle historique. Allez-y.
Le sujet n'était, certes, je ne conteste pas la modernité incroyable de ce couple, par son estime mutuelle, mais alors ce qui est délicieux aussi, c'est parce que ces archives ont presque aussi une valeur sociologique pour voir à quel point on pouvait être amoureux avec délicatesse, tendresse, retenue à cette époque-là. Voici une des lettres adressées donc par Jules Dégerine à sa maman pour l'entretenir de sa passion naissante pour cette jeune américaine nommée Augusta.
La jeune fille dont je te parle, maman, a toutes les qualités possibles. Amabilité, instruction, voire érudition, grâce, tout y est. Nous sommes dans d'excellents termes, sans jamais avoir effleuré le sujet brûlant. Je suis trop prudent pour cela. Je ne crois pas avoir rencontré une fille aussi bien sous tous les rapports. C'est le vrai type de la Miss américaine qui se gouverne elle-même. Autre lettre. La jeune fille est charmante. Et à tous égards ferait une charmante femme. En suis-je amoureux? Je ne crois pas. C'est de l'amitié que j'ai pour cette jeune fille. Malgré tout, parce que sa situation n'est pas encore faite, il ne veut pas demander sa main. Et dit-il, j'ai trop d'estime et de respect pour vous. Parler d'amour dans ces conditions, lorsque je le pourrai, je demanderai votre main. Quand, je l'ignore, peut-être jamais. En tout cas, saurez-vous que si le destin ne veut pas que je vous épouse, je n'épouserai jamais une autre femme.
C'est
magnifique. On est quand même dans l'époque romantique.
Hein. C'est quand même magnifique, oui.
Mais c'est superbe.
Et le pire, c'est que ça sera vrai, tout ça va se réaliser. C'est pas le... Ce sont des lettres de jeunes gens. Hein.
Ce ne sont pas des poètes de Saint-Germain-des-Prés hein, qui écrivent, ce sont des scientifiques. C'est quand même magnifique.
Oh, ce sont des étudiants, oui. Mais c'est vrai que c'est... C'est très, très étonnant. Pour ça, je dis, j'ai toujours été sensible et je ne connaissais pas plus que vous, au départ, tous les détails de cette histoire. Hein, parce que c'est les choses. Je reviendrai là-dessus. C'est sur cet aspect vraiment qui m'implique personnellement dans la découverte des relations entre Jules et Augusta.
Il y a autre chose qui les unit, c'est quand même la passion pour la science, pour la médecine. Et pour la neurologie.
Oui, alors, c'est une des choses où on va être nécessairement plus bref que les choses ne se sont passées dans la vie, c'est que tous les deux, on a vu les difficultés que Jules avait rencontrées pour devenir agrégé, mais les difficultés que Augusta rencontre pour devenir simplement étudiante en médecine, c'est-à-dire s'y inscrire, puis ensuite devenir externe. Et là, elle est aidée par la famille d'une jeune femme, d'une jeune fille anglaise, Blanche Edwards, dont le père va se démener, et qui est médecin, va se démener pour faire inscrire les enfants à la faculté, puis à l'externat. Et ensuite à l'internat. Alors à l'internat, le barrage est absolument terrible. Il émane des étudiants masculins qui ne veulent absolument pas supporter de voir arriver des candidates.
Et qui manifestent.
Mais ils manifestent l'effigie de Blanche Edwards, pas celle d'Augusta, mais sera refaite en mannequin de paille et brûlée sur le boule-miche. C'est vraiment... ces deux jeunes femmes montrent une solidité extraordinaire vis-à-vis de tout. Puis les professeurs de la faculté votent en majoritairement contre l'inscription de... Et c'est finalement l'impératrice Eugénie. C'est au plus haut niveau qu'il sera décidé d'inscrire, c'est de permettre à ces deux jeunes filles de s'inscrire à l'internat des hôpitaux. Et ce sera vraiment le préfet Poubelle, le préfet de police de Paris, qui sera à l'origine de cette inscription. Et c'est là aussi, les choses sont le premier... Alors, on n'est pas surpris que Augusta ait tout de suite la meilleure note en anatomie, puisqu'elle y est déjà très très entraînée. Mais elle sera descendue pour son premier concours à l'oral. Au deuxième concours, c'est même plus possible de la descendre, tellement ses notes sont impressionnantes. Et elle sera là donc la première femme nommée interne des hôpitaux de Paris. C'est une jeune américaine.
Pour bien mettre le doigt sur la violence de ce qu'il se passait, lorsqu'on lui permet enfin de passer le concours, premier barrage, on a franchi le barrage administratif, il est nécessaire de mettre en place un service d'ordre pour les protéger pendant leur examen.
Oui, oui. Et elles passent leurs examens dans une pièce à part et protégée, oui.
Et ensuite, une fois les examens franchis, c'est pas fini.
Oui, c'est pas fini. Donc Augusta est nommée interne. Elle va dans l'hôpital de Lourcine, dans un service de dermatologie. Ses collègues masculins lui interdisent de venir déjeuner avec eux en salle de garde. Et donc, on lui prépare ses repas sur un petit réchaud à part, tout ça. Mais Il en faut plus pour décourager Augusta. Et Augusta va comme, parce que pendant tout ce temps-là, ces deux jeunes gens n'ont cessé de fréquenter le laboratoire de Vulpian. C'est ça qui est très intéressant. Ils n'ont pas cessé d'avoir en ligne de mire, si on peut dire, une ambition de type scientifique. Ils veulent vraiment faire de la neurologie et de la faire, c'est-à-dire de mieux comprendre le fonctionnement du cerveau. C'est tout de même assez étonnant. Hein, c'est pas le et donc ils vont y passer leur temps et leur vie. Et Augusta va se révéler une femme extraordinaire. En deuxième année d'internat, elle arrête son internat pour se consacrer complètement à l'anatomie du cerveau.
Et qu'ensuite, ils se complètent merveilleusement.
Ils travaillent ensemble. Alors, on a les photos, on a tous les documents, là aussi, pour étayer cette communauté de vues. Elle devient dans le service, aux côtés de son mari. Alors, ils se sont mariés. Nous avons été très rapides, là. Mais comme la situation de Jules est faite, qu'il est agrégé, et qu'elle-même est interne des hôpitaux, elle a fini ses études et tout ça, ils ont décidé de se marier. Alors, simplement pour l'anecdote, l'un des témoins est Savorian de Brazza, un explorateur, parce que c'était un ami de Jules avec lequel il prenait ses repas dans une gargote de la rue Mazarine.
À deux pas d'ici.
Non, c'est tout ça, c'est pour dire la vie, et d'abord la proximité de ces événements avec nous, et puis la proximité temporelle et géographique, et puis ce côté, je dirais, presque moderne des relations entre ces gens.
Exactement, il y a un côté extrêmement paradoxal, parce qu'on sent que c'est une société qui est encore régie par des castes, très hiérarchisées, dans laquelle on doit progresser en passant par un certain nombre d'antichambres, que tout ça est très normé. Et en même temps, les relations sociales peuvent être complètement improbables.
Voilà.
Des amitiés fulgurantes, qui traversent tout cela comme peut-être ce ne serait plus possible aujourd'hui.
Oh, je crois que c'est possible. C'est possible.
On va écouter des explorateurs rue Mazarine dans ma génération. Ça va être plus difficile, en tout cas.
Donc, nous voilà avec Jules et Augusta travaillant et sur l'anatomie du cerveau. Encore une fois, les talents techniques d'Augusta sont extraordinaires. Il faut penser, il faut réaliser que pour un hémisphère cérébral, il faut faire 2000 coupes sériées, car la technique qu'ils ont décidé d'adopter est une technique de coupes sériées.
Expliquez-nous
au
ça.
Microtome. Il faudrait faire une démonstration.
Exact. Du cerveau. Hein.
C'est-à-dire ne perdre aucune coupe et les recueillir sur un support qui permette de les transférer, de les colorer et de les regarder ensuite une à une pour reconstituer en série le trajet des différents faisceaux intracérébraux. Personne n'a jamais connu, même depuis, l'anatomie du cerveau comme Augusta l'a connue. Elle la connaissait millimètre par millimètre, elle l'avait fait. Elle avait fait ses milliers de coupes, elle les avait examinées pour elle, et elle voyait, il n'y avait pas d'informatique à l'époque. Hein. La constitution en trois dimensions, c'était dans sa tête qu'elle les faisait. Et donc elle voyait les choses. Jules l'aidait beaucoup, je pense, mais il ne faut pas être dupe. C'est Augusta qui a été le génie scientifique de ça. Il fallait un acharnement et une espèce de vision de ce que serait ensuite l'anatomie du cerveau et le fonctionnement du cerveau. Elle était en avance. Alors, un nom qu'il faut prononcer aussi, c'est le nom de Caral. Car rien n'aurait été possible s'il n'y avait pas eu l'influence de Caral, les théories neuronistes, enfin, c'est-à-dire la défaite des réticularistes et tout ça, et l'individualisation des cellules nerveuses. Si on cherche une base scientifique à cette merveilleuse construction de l'anatomie du cerveau, il faut aller la chercher à Madrid, il faut aller la chercher chez Caral. Ils l'ont tous les deux écrit dans les préfaces qu'ils ont fait pour l'anatomie du cerveau de façon extrêmement claire. Et donc, c'est extraordinaire parce qu'ils se sont inscrits chaque fois dans le bon courant pour progresser dans la connaissance du cerveau.
Alors, semble-t-il, l'un des je veux dire, un soutien, mais c'est lui donner un rôle subordonné, alors que ce n'était pas le cas d'Augusta, c'est sa connaissance des langues. C'est-à-dire qu'à une époque où les communications alors scientifiques ça, se font dans différentes langues...
C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, il y avait trois langues principales, et il n'y avait que trois pays qui travaillaient à l'époque sur la France, l'Angleterre et l'Allemagne, et Augusta maîtrisait les trois langues. Donc effectivement, son aide pour la bibliographie, comme on dit, ou pour la connaissance de ce qui s'écrivait. Et quand dans ce extrêmement petit et modeste laboratoire de Bicêtre, où se faisait toute cette anatomie du cerveau, ont défilé les plus grands neurologues venant d'Angleterre et venant d'Allemagne. Et je pense que ça a dû beaucoup influencer l'école de Charcot. Mais c'était que Sherrington, qui sera prix Nobel quand même, vienne lui-même pour voir les préparations des dégerines, c'est quelque chose qui s'inscrit dans l'histoire. Ça, c'est la merveille de cette petite équipe.
Oui, petite équipe et tout petit moyen. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce laboratoire? Parce qu'on dit laboratoire du Kremlin-Bicêtre. En quoi consistait-il ce laboratoire?
Il devait y avoir deux pièces. Je n'ai pas connu celui de Bicêtre. Par contre, j'ai connu celui de Jacquard. Enfin, j'ai connu les traces de celui donc quelques années plus tard, Jules va être nommé à... on va revenir sans doute sur ce, après le décès de Charcot, va être nommé au petit, ce qu'on appelle le petit service de la Salpêtrière à Jacquard. Et à Jacquard, donc, le laboratoire est peut-être un tout petit peu plus grand que celui de Bicêtre, mais il y a deux pièces. Une où il y a tous les cristallisoires avec les cerveaux et les lames et tout ça. Puis évidemment, de quoi s'asseoir pour les... Et puis il y a peut-être deux microscopes pour que les élèves puissent aussi regarder les coupes. Et puis c'est tout. Et de l'autre côté, il y a le cabinet du patron. C'est Dégerine lui-même qui travaille et ils regardent le soir chez eux. Ils regardent les lames. Ils font leur interprétation de ce qu'ils ont coloré dans la journée. C'est fou. Et il faut voir que nos auditeurs aillent un jour voir ce qu'est le livre d'anatomie, les deux tomes d'anatomie. C'est absolument sidérant de penser que tout ceci a été écrit à la main. Et quand je dis écrit à la main, j'en ai la certitude, puisque j'ai les brouillons et j'ai les manuscrits à la maison.
Alors expliquez-nous quand même.
Alors voilà, alors, il faut maintenant que je rentre plus vivement. Je vous ai laissé tout à l'heure, quand j'arrive à la Salpêtrière en 57, que j'ai conscience que j'appartiens à la dynastie de Vulpian et des Dégerines. Bon, j'ai choisi de travailler dans le tissu musculaire, c'est une chose, mais je reste très... je suis devenu... je crée un service de microscopie électronique, enfin, c'est des choses tout à fait nouvelles pour l'époque, et je commence un petit peu, comme on l'a évoqué pour ça, à être un peu connu par les préparations que je fais. Et puis, il y a le centenaire de Charcot. Le centenaire de la mort de Charcot. Et pour le centenaire de la mort de Charcot, on m'invite. J'ai été élève de l'école Charcot après. Donc c'est quand même pas une surprise complète. Mais il ne me déplaît pas de prendre comme thème quelque chose qui a été fait par Dégerine. Et donc je vais prendre comme sujet... une des myopathies, une des maladies myopathiques qui a été décrite par Dégerine avec son ami et collègue Landouzi. Et pour avoir les documents d'origine, et grâce à celui qui à l'époque est mon patron, je prends contact avec la fille des Dégerines, Yvonne Sorel-Dégerine, qui est elle-même neurologue et qui est la trésorière inamovible de la Société de neurologie. Je lui demande la permission d'aller chez elle et de consulter les documents d'origine. Je suis merveilleusement reçu. Je vais découvrir que tout est parfaitement classé. Je vais aller voir pour la première fois et photographier pour la première fois les lames d'origine qui sont conservées à l'ancienne faculté de médecine. Et donc, je vais avoir des liens personnels très, très proches avec la fille des Dégerines. Yvonne va mourir 2 ou 3 ans plus tard, je ne sais plus. Et à sa mort, la famille Dégerine, qui me connaît aussi parce que j'ai travaillé avec la fille d'Yvonne également, enfin c'est des détails personnels, téléphone un jour chez moi en disant « c'est toi, on a décidé que c'était toi l'héritier spirituel des Dégerines, donc prends ta voiture et viens parce qu'il nous faut débarrasser l'appartement de la rue de Lille. » Et donc je vais emmener à la maison tous les documents personnels, tous les brouillons, toutes les choses. Alors pourquoi est-ce que c'était chez eux ? Pourquoi est-ce que c'était chez moi ? Eh bien là, il y a une raison qui est très triste et qui est liée à l'opposition, à la haine, on peut dire, qui s'est établie entre les successeurs de Charcot et Augusta et Jules. Si on peut dire, celui qui porte cette haine est le successeur de Charcot, c'est le professeur Pierre-Marie, qui est un neurologue extrêmement connu, mais qui est en opposition théorique et en opposition personnelle extrêmement forte avec les deux Dégerines. Et il y a eu 3 séances historiques à la Société française de neurologie, au sujet des aphasies sur lesquelles les opinions des Dégerines et les opinions de Pierre-Marie étaient en opposition complète. Et, pardonnez-moi. Et à la fin du 3e acte qui était consacré à l'anatomie, Madame Dégerine s'est permis de donner une leçon d'anatomie à Pierre-Marie, pour démontrer que la construction théorique qu'il avait faite sur l'unicité des aphasies ne tenait pas debout sur le plan scientifique. Et est évident que ça a laissé des traces extrêmement fortes. Et lorsque Jules est mort en 1917, Pierre-Marie, qui a succédé enfin à Charcot et à Dégerines, a donné 15 jours à Madame Dégerines pour sortir de la salpêtrière avec toutes ses pièces, ses collections et tout ça. Et donc, la partie la plus importante matériellement, c'est-à-dire les cerveaux, les lames, tout ça, est allée à l'ancienne, à la faculté de médecine, et ce qu'on appelle, nous, l'ancienne faculté de médecine. Et pour toute la correspondance personnelle, ce que j'ai évoqué, les photos, enfin tout ce qui avait servi à la construction de... Eh bien, la famille avait décidé que c'était moi, que l'héritier, et qu'il fallait que j'emmène tout chez moi. Je n'ai pas un château, j'ai pas des choses, donc j'ai encombré beaucoup ma maison avec les choses, et pendant des années, avec 2 collègues, nous avions regardé un peu les choses, mais c'était tellement important comme chose que je n'ai... Et puis est arrivé le centenaire de...
Mais c'est un fonds inestimable qui aurait pu être perdu.
Ah oui, oui, oui. C'est arrivé le centenaire cette fois, non plus de Charcot, mais de la mort de Jules Dégerines. Et bon, je me suis dit que je ne me devais de faire quelque chose avec toutes ces archives, ces brouillons et tout ça. Et c'est ce que vous avez sous les yeux. J'ai commencé. Alors j'ai été, je le dis, vraiment d'émerveillement en émerveillement. Parce que en ouvrant les cantines, en ouvrant les boîtes, en ouvrant les choses, je découvrais c'est l'immensité du travail qui avait été fait. Travail à la main, écrit à la main, les lames, tout dessiné. Alors on reviendra sur les qualités esthétiques après, parce que c'est pas non plus négligeable dans la valeur que l'on peut donner à tous ces documents. Mais le travail qu'ont fait Jules et Augusta, c'est incroyable. On parle souvent de travail de bénédictins, mais je ne sais pas s'il y a des bénédictins qui auraient osé se lancer dans une affaire pareille. Tout est écrit à la main, à la main.
Des centaines et des centaines de pages.
Des milliers de pages. C'est avec une belle écriture. Les 2 écritures sont très distinctes. L'écriture ronde et très féminine d'Augusta. L'écriture plus serrée, plus fine de Jules. Souvent, dans la même page, il y a les deux. les deux écritures. Il y en a un qui commence et l'autre qui termine. C'est pour donner aussi une idée de la façon dont il travaillait.
Avec néanmoins une petite limite, si vous me permettez, c'est que si j'ai bien compris, lorsqu'il y a des publications ou des communications qui sont faites par Jules Dégerine, il est assez rare que son épouse soit mentionnée en tant
Alors,
que telle.
Alors, ils ont
un
respect total l'un pour l'autre dans leur production. Il y a des choses qui ont été peu, évidemment, quantitativement, faites directement par Augusta, y compris quand elle était simple externe. Ce n'est pas signé de Jules. C'est vraiment... c'est chacun son domaine. Toute la partie... anatomique leur est commune. Et c'est pour la première fois une femme qui signe l'anatomie du système nerveux avec son mari. C'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Mais pour tout ce qui est la sémiologie, c'est Jules tout seul. Et les livres sont écrits à la première personne du singulier. On n'est pas du tout dans la complaisance. Les travaux des collaborateurs sont toujours parfaitement identifiés. Et il y a une honnêteté profonde. C'est très, très étonnant. Je dis, c'est extrêmement moderne. C'est vraiment, et ça s'oppose à ce qui se passait aussi dans l'autre école et tout ça, où nécessairement, n'importe quel travail, n'importe quel papier devait être signé d'abord par le chef de service, par le patron. J'ai connu, moi, cette époque, et je l'ai connu. Je dis souvent pour moi-même. Alors c'est ça que je suis de la génération qui est passée de signer en dernier les papiers à signer en dernier parce qu'après il y a eu on faisait signer les plus jeunes avant. Donc j'ai souvent signé en dernier. Mais je trouve ça pour revenir à Dégerine, c'est vraiment. Il y a une honnêteté, presque une pureté d'intention qui est vraiment étonnante. Il n'y a jamais de confusion des rôles. Et alors, si on approche des choses, puisqu'on va voir Dégerine. Alors, donc, le problème, les honneurs vont pleuvoir sur eux à partir de quand Dégerine va prendre la chaire de Charcot en 1911. Il est déjà très connu internationalement. Il est membre associé correspondant de pratiquement toutes les académies européennes. La Royal Society va lui donner pour la première fois à un non-anglophone la médaille d'or Moxon, ce qui est vraiment à l'époque vraiment une récompense internationale de très très haut niveau. Mais on est en 1915, la guerre est commencée en 14 et Dégerine n'ira même pas à Londres. Ni prononcer le discours qu'il avait préparé, ni même recueillir les choses. Dégerine meurt en 1917, en février 1917. Il était malade depuis longtemps, il avait une néphrite qui l'avait immobilisé à plusieurs reprises tout au long de sa vie, et il en est mort. Il en est mort, et donc il a laissé Augusta seule, chassée de la salpêtrière. Mais pas sans énergie, car Augusta va être nommée à ce moment-là, va continuer le travail qu'ils avaient entamé auprès des blessés de la moelle épinière, des nerfs périphériques. Enfin, c'est des pages extrêmement dures, mais extrêmement, comment on peut dire, impressionnantes de voir le dévouement et la sagacité d'Augusta pour ça. Là, à nouveau, son caractère américain va émerger, car on va la nommer très vite, puisqu'elle n'est plus dans la salpêtrière, à l'hospice des Invalides. On va lui confier un nouveau service pour la rééducation des blessés de la moelle épinière et des nerfs périphériques. Et elle va introduire des notions qui sont déjà en émergence aux États-Unis, mais qu'on appelle aujourd'hui l'ergothérapie, la physiothérapie, enfin toutes ces choses. Elle va même faire en sorte que les blessés, dès qu'ils ont un peu d'autonomie, non seulement puissent travailler à de modestes travaux dans leur lit ou tout ça, mais sortent des Invalides. Elle va mobiliser ses amis et tout ça pour les promener au bord de la Seine, au Grand Palais, tout ça, pour que ces gens n'étouffent pas, si pas, ou ne meurent pas dans leur, dans leur lit. Elle va, alors on tombe là avec les histoires personnelles, ou plus exactement familiales, de la famille Klumke. La sœur, celle qui a eu l'ostéomyélite, est devenue un très grand peintre. Elle est devenue la compagne de Rosa Bonheur. Là aussi, c'est toute une histoire particulière. Elle a donc un château, si on peut dire, une grande propriété en forêt de Fontainebleau. Et elle va mettre cette propriété, ce château, à la disposition des blessés qui sont soignés par Augusta. Donc, ça donne une idée de la communauté de vue des choses ici. Donc, notre Augusta va devenir la première à organiser de façon rationnelle et moderne un service de rééducation des blessés du système nerveux. Bon, là aussi, elle va être reconnue pour ses qualités de médecin et d'organisatrice extraordinaire. Alors, on lui donnera la Légion d'honneur, on fera tout ce que l'on peut. Et il faut lire les éloges ou ce qu'elle a écrit elle-même, Augusta, pour voir que les luttes féministes qui avaient été son moteur, si on peut dire au départ, n'ont pas disparu pour autant, et qu'elle a simplement toujours dit qu'elle ne voulait pas autre chose que prêcher par l'exemple et être exemplaire. C'est ce qu'elle a été toute sa vie et c'était vraiment impressionnant, mais c'est très très étonnant. C'est encore une fois, je le dis avec d'autant plus de simplicité et tout ça, que je ne peux pas dire que je ne le savais pas avant, mais je l'ai vraiment découvert en progressant dans les archives d'Augusta.
Oui, qu'il faut peut-être préciser pour conclure, parce qu'on a donné une image de scientifique acharné à la tâche, de piocheur, de gens capables de passer des heures dans l'anatomie, découpant le cerveau en tranches, recensant tout, un travail de fourmi, de bénédictin, vous l'avez dit, mais c'était également de grands humanistes. Et si vous me permettez, je voudrais lire quelques lignes, celle de la leçon inaugurale, lorsque, si je ne me trompe pas, sinon vous m'arrêterez, lorsque Jules de Gérine prend la chaire de Charcot.
C'est ça.
Et ouais. Il s'adresse donc à l'auditoire, qui comprend nombreux élèves étudiants en médecine, futurs médecins, et là aussi c'est d'une incroyable modernité, puisqu'il parle des psychonévroses, et ça laisse transparaître sa vision qu'il a de la médecine, mais aussi la vision qu'il a de l'homme. Donc il dit ceci, évoquant donc les personnes atteintes de psychonévrose, cas dans lesquels vous n'aurez que de très rarement, dit-il, l'occasion d'employer une logique subtile, comme dans les atteintes organiques du système nerveux, mais où c'est votre cœur qui marchera, beaucoup plus que votre raison. Vous apprendrez à les comprendre, à les soigner, en mettant votre malade en confiance, en sécurité, en lui donnant une paix intérieure, et vous obtiendrez ainsi de vos plus beaux succès thérapeutiques. J'estimerai mes efforts ultérieurs largement payés si j'arrive à démontrer à quelques-uns d'entre vous que le métier de médecin ne doit pas se borner à pratiquer des examens et écrire des ordonnances, et que la sphère morale entre dans notre domaine, parce que c'est dans celle-là qu'avec un peu de bonté et de pitié, on peut faire le plus de bien. Et le dernier mot de cette leçon inaugurale, dites-vous, est le verbe aimer.
Merci, voilà. Merci d'avoir cité ça, parce que je trouve que c'est dans ces lignes et dans ces livres qui ont été écrits sur des malades qui étaient, et qu'ils sont toujours, très souvent rejetés par la neurologie la plus officielle, si on peut dire, les malades dits fonctionnels, tous ces névrosés et tout ça, c'était évident que pour Desgrines, qu'il fallait les analyser, et qu'il fallait, j'emploie un mot excessif, analyser, car comme vous avez pu le voir, Freud est absent de cette réflexion. C'est une psychothérapie qui est basée sur la confiance, qui est basée sur les mots employés, et avec petite chose annexe, mais pour améliorer l'existence de ces gens. Mais c'est là, effectivement, c'est le côté médecin de Jules, de guérir des gens. Et c'est vrai qu'en neurologie, surtout à cette époque, on n'avait pas beaucoup l'occasion de guérir des gens. Et par contre, chez ces malheureux qui se plaignaient de leur estomac, de leur utérus, de leur toutes les choses, un peu de compréhension, des bons mots, un peu d'isolement, un peu de nourriture, et de bonnes infirmières, qui étaient les vrais psychothérapeutes de l'époque, eh bien, ils les remettaient sur pied, c'était sa joie.
Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ? Peut-être, vous me disiez en préparant l'émission que ce livre n'était que le début d'un travail de recherche et que... un travail de redécouverte.
Je peux dire,
de,
oui, c'est ça.
C'est
comme je pense, nous l'avons souligné là, en dépouillant toutes les archives, en voyant la correspondance et tout ça, je me suis aperçu, comme mes collègues, de l'immensité du travail scientifique réalisé par ces deux personnes et sur le plan anatomique par Augusta. Et donc, nous avons décidé de continuer à explorer cette voie et mieux mettre en valeur et mettre en lumière l'œuvre extraordinaire. Vous avez parlé au début de cette émission d'écurie. Je crois qu'il faut maintenant parler des Dejerine comme d'un couple exemplaire qui a apporté énormément. C'était peut-être que l'anatomie est moins scintillante que les rayonnements ionisants, mais ça vaut la peine aussi d'être mentionné.
D'autant que le cerveau est quand même le continent que nous commençons à redécouvrir en ce début de 21e siècle. Donc j'espère que notre émission contribuera à susciter des vocations. Merci pour votre ouvrage. Je renvoie nos auditeurs à celui-ci pour donc ce premier chapitre de la redécouverte de Jules et Augusta Dejerine. Il s'agit de Passion Neurologie, Jules et Augusta Dejerine par Michel Fardeau aux éditions Odile Jacob. Merci monsieur, merci à nos auditeurs pour leur fidélité. Thank you.